Classique.
Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Nous en profitons évidemment pour vous présenter nos vœux, nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année, même si l'année commence d'une façon assez lourde, comme elle s'est terminée d'ailleurs, la précédente, avec toujours le conflit au Proche-Orient et toujours le conflit de la Russie contre l'Ukraine. Nous avons aujourd'hui, pour essayer, on va refaire un petit tour d'horizon sur ces questions internationales avec Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Frédéric Ancel qui enseigne la géopolitique et qui est l'auteur des Voix de la puissance publié chez Odile Jacob. Donc nous sommes là encore au cœur des difficultés de notre monde avec la tournée du secrétaire d'État américain au Proche-Orient, Anthony Blinken, qui ne visite pas moins de 8 capitales ou 8 dirigeants pour tenter à la fois d'éviter ce que l'on craint, c'est-à-dire une extension du conflit à Gaza, et d'autre part d'essayer de limiter aussi la façon dont Israël mène la guerre à Gaza, en essayant de faire une part un peu plus grande, si possible, à l'humanitaire, alors même que l'on parle de famine prévisible dans la bande de Gaza, et où le gouvernement israélien a commencé à discuter de l'après, avec un ministre de la Défense qui évoque un futur de Gaza sans administration civile du Fatah, enfin de l'autorité palestinienne, et un autre de ses ministres qui, lui, parle du fait d'essayer au fond d'expulser les Palestiniens de la bande de Gaza, donc avec des disputes virulentes au sein même de ce gouvernement israélien. Donc on va peut-être commencer, Frédéric Ancel, avec vous, avec ce qui domine l'actualité, c'est-à-dire ce qui domine l'actualité dans les journaux en tout cas, c'est-à-dire ce risque d'extension du conflit, et aussi, et peut-être surtout pour commencer, cet attentat qu'il y a eu en Iran, qui a fait un peu plus de 80 morts, autour d'une cérémonie pour saluer la mémoire du chef des services de sécurité iraniens qui avait été assassiné par un drone américain il y a maintenant 4 ans. Donc Frédéric Ancel, comment regardez-vous cet événement et comment regardez-vous aussi cette thématique de l'extension possible du conflit?
Alors écoutez, je vois cet événement comme le maintien d'un clivage qu'on avait un peu trop facilement oublié chez beaucoup d'observateurs et qui traverse d'une ligne de sang le Moyen-Orient depuis maintenant plusieurs décennies, qui est le clivage sunnite-chiite. Et non seulement nous avons affaire à un retour en quelque sorte de ce clivage qui n'avait d'ailleurs jamais disparu, je dis retour, mais parce que là ça a été particulièrement violent avec Daesh qui assume parfaitement d'avoir littéralement assassiné une centaine de personnes, des civils, dans le cadre d'une commémoration funèbre, ce qui correspond très bien à son modus operandi d'ailleurs, au sein de la République islamique d'Iran, par définition chiite, et où le culte sunnite n'est même pas reconnu. Il faut quand même le savoir, il faut le rappeler, d'une part. Et d'autre part, je vais peut-être vous surprendre, je vais lier cet événement dramatique à la guerre Israël-Hamas. Non pas que Daesh, et que d'ailleurs les autorités de Téhéran se fichent ou s'intéressent aux Palestiniens, ça je n'ai aucune espèce de doute là-dessus. En revanche, regardez à quel point il y a eu ces dernières semaines, des expressions d'amertume de la part des chefs du Hamas vis-à-vis de leurs prétendus alliés chiites, Hezbollah et Iran. Parce qu'il ne vous aura pas échappé, messieurs, que depuis le 7 à 8 octobre, depuis le début de la guerre, qui a commencé avec ce gigantesque pogrom du Hamas en Israël, au fond, à part maintenir une tension, alors forte c'est vrai, mais seulement une tension à la frontière nord d'Israël, le Hezbollah n'est pas allé au secours des Palestiniens du Hamas. Et c'est vrai aussi pour la République islamique d'Iran, même si à Téhéran, on envoie les fameux proxy missiles qui sont fondamentalement des amis-pieds dotés d'un certain nombre de missiles. Mais tout ça n'est pas sérieux du point de vue palestinien. Pourquoi ? Parce que le Hamas, à la fin des fins, n'intègre pas cet arc de la résistance, comme on l'appelle à Téhéran, mais qui est en réalité un arc chiite qui passe par l'Irak et la Syrie. Voilà, c'est comme ça que j'interprète ce qui s'est produit en Iran. Alors, deuxième point très rapidement pour répondre à votre question sur l'expansion. Vous le savez, j'ai dit à votre sur votre antenne, je n'ai absolument jamais cru, pour une raison d'ailleurs que je viens un peu finalement de subodorer. Le chacun a son agenda. Le Hezbollah, son agenda, c'est pas la bande de Gaza, et c'est même pas les Palestiniens de manière générale. C'est le Liban qu'il continue à vampiriser et la Syrie. N'oublions pas que le Hezbollah a constitué l'essentiel des fantassins au service du dictateur Bachar al-Assad pendant 12 ans de guerre civile en Syrie. Et il n'est pas impossible de dire qu'il a littéralement sauvé ce pouvoir. Et là on a vraiment le cœur de l'agenda du Hezbollah, et c'est franchement pas le Hamas.
Jean-Claude Casanova.
Oui, moi, ce qui me frappe en ce début d'année, c'est d'une part, ça va être dominé par deux élections, une qu'il faut mettre entre guillemets qui est certaine, c'est celle de Poutine en mars, et l'autre qui est une vraie élection, en revanche, mais qui est incertaine, puisqu'on ne sait pas si Trump sera candidat et si Biden pourra être élu contre Trump ou contre un autre candidat républicain. Alors, ce qui me frappe aussi au Moyen-Orient, c'est la qualité et la précision de l'implication américaine. Les Américains viennent d'abattre par drone le chef de d'une milice pro-iranienne en Irak, et ils essayent de contrôler la mer Rouge et donc l'accès au canal de Suez, qui d'ailleurs concerne beaucoup l'Égypte, qui perd de gros revenus si Suez est moins utilisé. D'autre part, les États-Unis ont donné des conseils militaires aux Israéliens, leur disant, tout en leur fournissant le matériel et l'aide militaire en armement qui est nécessaire, en leur demandant de reprendre leur spécialité des attaques individuelles, c'est-à-dire la liquidation du numéro 2 du Hamas est évidemment un très grand. C'est ce qu'avait préconisé le chef d'état-major américain. Plutôt que de bombarder massivement et de créer des pertes civiles, il vaut mieux reprendre une tactique dans laquelle les Israéliens avaient excellé, c'est-à-dire l'infiltration et la liquidation de dirigeants adverses. Et donc, le voyage de Blinken confirme cela, c'est que désormais les États-Unis doivent jouer un rôle moteur au Moyen-Orient, et il faut attendre ce que sera la réaction iranienne ou l'absence de réaction iranienne, parce que ils mènent en même temps vis-à-vis de l'Iran une politique de confrontation en laissant ouvert la possibilité de négociation.
En même temps, l'Iran continue d'armer la Russie contre l'Ukraine. Oui, et donc l'Iran participe d'une certaine façon au grand affrontement entre les démocraties et les régimes dits autoritaires, qui sont d'ailleurs autoritaires. Frédéric Ancel.
Oui, absolument. Alors je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit très justement. Et sur votre présentation tout à l'heure, cher Jean-Marie, vous avez dit dans votre présentation, Anthony Blinken refait une tournée donc au Moyen-Orient et il est attendu dans 8 capitales. C'est fondamental. Voilà des années qu'un certain nombre d'observateurs plus paresseux les uns que les autres nous annoncent le retrait américain du Moyen-Orient. Mais enfin, c'est ridicule. Depuis le 8 octobre, du début de la crise, on assiste à un très impressionnant déploiement militaire américain dans la région. On se souvient des deux escadres face à la bande de Gaza aux côtés d'Israël. L'une est passée par la mer Rouge et se retrouve renforcer aujourd'hui la 5e flotte américaine qui veut frapper 4 embarcations de Houthis qui propulsaient d'où provenaient des missiles. Enfin, écoutez, sur le plan à la fois militaire, ça c'est incontestable, sur le plan politico-diplomatique aussi, et on le verra, je l'espère, rapidement, après la crise sur le plan économique, il n'y a réellement qu'une grande puissance dans la région. Et les Américains, contrairement donc à ce qui a été dit pendant très longtemps, n'ont pas quitté la région. Certes, ils s'étaient préoccupés davantage, dans le cadre de ce fameux pivot d'Obama-Naguère, de l'Indo-Pacifique. Et on peut ô combien les comprendre. Mais ça ne signifie pas un retrait du Moyen-Orient. Et on le voit tous les jours. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement celui qui concerne les pressions de Biden sur Netanyahou. Il faut être extrêmement clair. Aujourd'hui, le gouvernement israélien est en dessous de tout. Je veux dire par là qu'il est composé de gens, pour l'essentiel, parfaitement incompétents. Je ne fais que reprendre l'essentiel de ce qui est dit jour après jour dans toutes les enquêtes d'opinion réalisées en Israël, où une large majorité d'Israéliens, et de plus en plus large d'ailleurs, considère que le gouvernement, je parle de celui du 7 octobre, pas celui de l'unité nationale dans lequel, évidemment, on a ajouté des généraux, pour le coup, compétents pour faire la guerre. Mais de plus en plus d'Israéliens, et aujourd'hui une majorité large, considère que ces gens sont non seulement incompétents, mais au moins 3 des ministres qui composent ce gouvernement sont de parfaits extrémistes qui disent absolument n'importe quoi. Le problème, c'est qu'ils restent en place. Et donc Netanyahou, aujourd'hui, pose un véritable problème, non seulement régional, mais à ses alliés américains et dans une certaine mesure européens. Et c'est la raison pour laquelle, je crois aussi, Anthony Blinken revient, et il revient avec, sans doute, des mots effectivement plus sévères. Alors, les Américains n'exigent toujours pas un cessez-le-feu d'Israël, parce qu'un cessez-le-feu d'Israël aujourd'hui, ça signifierait que la bataille est perdue, mais donc ils laissent le temps à Israël de vaincre militairement le Hamas, mais aux conditions qui viennent d'être rappelées il y a un instant, c'est-à-dire avec un modus operandi qui devra nécessairement faire moins de victimes palestiniennes.
Oui, en même temps, on a eu l'illustration de vos propos, Frédéric, par les débats à l'intérieur du gouvernement israélien qui ont tourné presque à la bataille rangée, puisque le Premier ministre a dû interrompre une réunion qui était précisément consacrée au futur, à ce qui allait se passer après, avec des prises de parole de ministres extrémistes qui sont en effet froid dans le dos, parce qu'il s'agit d'expulser les Palestiniens de la bande de Gaza, il s'agit évidemment d'annexer la Cisjordanie, ainsi de suite. Et par ailleurs, c'est un enjeu majeur, parce que l'attitude américaine, parce que il me semble que l'opinion américaine sanctionnerait lourdement Joe Biden si celui-ci n'arrivait pas en quelque sorte à tordre le bras de Netanyahou, notamment sur l'aspect humanitaire des choses, puisque une bonne part de la jeunesse américaine aujourd'hui est en révolte ou en contestation de l'aide américaine à Israël à cause de ce que l'on voit tous les jours et de ce spectacle hallucinant de Gaza, pratiquement de quartier entier pratiquement rasé par les bombardements israéliens. Frédéric Ancel.
Vous avez raison, pour ce qui concerne le Parti démocrate et une partie de la jeunesse, pas nécessairement d'ailleurs engagée en politique. Je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé pour ce qui concerne non seulement les républicains, mais au-delà du Parti républicain, les évangéliques, sur lesquels je travaille depuis de très nombreuses années, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, qui ont constitué pendant plusieurs décennies une espèce de signal faible à travers le monde, au sens évidemment géopolitique du terme, mais qui aujourd'hui, me semble-t-il, relève d'un phénomène parfaitement déterminant. Il y a presque 100 millions d'Américains qui s'affirment, alors sympathisants ou réellement, et pleinement évangéliques. On n'a pas le temps évidemment de faire d'exégèse évangélique, mais quand même, pour l'essentiel, les évangéliques soutiennent Israël, et notamment, pour beaucoup d'entre eux, plutôt une dimension nationaliste et religieuse. Et de ce point de vue-là, vous avez raison de dire qu'une partie de l'opinion américaine en voudrait à Biden s'il ne réussissait pas à tordre le bras sur le plan humanitaire à Netanyahou. Dans le même temps, j'affirme que un pan entier de l'opinion américaine ne lui pardonnerait pas d'avoir empêché Israël de vaincre son ennemi ayant perpétré un tel pogrom le 7 octobre dernier.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Ancel, qui traite de la géopolitique et qui l'enseigne d'ailleurs, et nous parlions de la situation au Proche-Orient avant d'évoquer très rapidement la question ukrainienne. Jean-Claude Casanova, vous vouliez réagir au propos de Frédéric sur l'opinion américaine et la cassure qu'il y a au sein de l'opinion américaine.
Sur l'opinion américaine, disons la fraction de jeunes du Parti démocrate qui pourrait être hostile à la politique de Biden au Moyen-Orient a le choix entre Biden et Trump. Or, Trump est encore plus pro-israélien, si j'ose dire, que Biden. Et donc, je ne crois pas que ça ait la moindre implication électorale. Ce que souhaite Biden, qui a donné l'aide militaire à Israël, c'est une politique israélienne plus raisonnable, plus centrée sur la lutte proprement dite contre le Hamas, et aussi la déclaration du ministre de la Défense israélien disant il n'y aura pas de civils israéliens à Gaza, et un début de reconnaissance que Gaza appartiendra au futur État israélien. Et de cette façon, on voit une implication. Netanyahou est certainement détesté aujourd'hui par la majorité de l'opinion israélienne, mais pour le remplacer, il faut des élections. Et je pense que le comité de défense utilise Netanyahou par sa seule grande qualité, c'est-à-dire sa capacité à être à la fois israélien et américain. C'est un homme élevé aux États-Unis qui a une très grande facilité de contact avec la politique américaine, à la différence de beaucoup d'autres dirigeants israéliens.
Et qui a beaucoup de relais au sein du parti républicain aux États-Unis. On évoquait Joe Biden. Un autre des problèmes de Joe Biden, c'est évidemment l'aide à l'Ukraine, puisqu'il est en ce moment, toujours bloqué par la majorité républicaine de la Chambre des représentants qui empêche de délivrer le volet que Joe Biden s'était engagé à livrer précisément pour aider l'Ukraine à résister à l'offensive russe. Et en ce moment, cette offensive russe se déchaîne par la voie aérienne, avec des bombardements des villes, des principales villes ukrainiennes, et avec la crainte côté ukrainien de ne plus avoir suffisamment de moyens de défense aérienne, même si on est habitué un petit peu aux appels au secours de l'Ukraine, mais ces appels au secours jusqu'à présent ont été validés par ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc comment regardez-vous tout cela, Frédéric Ancel? Est-ce que vraiment le rouleau compresseur russe va finalement avoir raison de la résistance ukrainienne ou non?
Alors je vous dirais que si j'étais Monsieur Zelensky, je serais plus pessimiste que si j'étais Monsieur Netanyahou. Du point de vue de l'aide américaine, effectivement, le parti républicain en a vraiment, vraiment assez. Et là, je crois que ça touche la quasi-totalité aujourd'hui des classiques républicains de soutenir à fond, sinon perdu, en tout cas très important, l'Ukraine, dont la plupart se fichent totalement. Ça me permet d'ailleurs de rappeler, sur la base de ce que je disais tout à l'heure, que le nouveau speaker de la Chambre républicain de la Chambre des représentants est un évangélique. Hein. Je ferme la parenthèse. Et d'ailleurs, c'est lui qui a voulu diviser l'enveloppe d'aide globale proposée par Biden en faveur d'Israël et de l'Ukraine au profit d'Israël. Hein. Pour l'instant, la partie de l'enveloppe consacrée à l'Ukraine, pour l'instant, elle est en stand-by. Hein. Comme on dit aux États-Unis, je referme la parenthèse. Mais je vous dirais que le rouleau compresseur, je ne le vois pas. Pourquoi ? Parce que les Russes se sont barricadés enfin, sur une position, un positionnement lourdement défensif. Ils ont organisé ça pendant plusieurs mois, voire quasiment une année. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde très militairement ce qui se passe sur le terrain, mais également sur le plan diplomatique où M. Poutine fait montre tout à coup d'une volonté de négocier, alors évidemment pas à n'importe quelle condition, il y a des conditions évidemment inacceptables, mais ça signifie quoi ? Ça signifie qu'à mon sens, aujourd'hui la Russie se contenterait d'un cessez-le-feu définitif qui lui permettrait de conserver finalement presque 20% du territoire ukrainien, dont la fameuse Crimée. De ce point de vue-là, je ne suis pas certain que les Occidentaux seraient d'accord pour suivre M. Zelensky lorsqu'il demande une aide plus massive encore qui lui permettrait de récupérer la totalité du territoire ukrainien occupé.
Cela dit, on peut considérer quand même que l'objectif ukrainien est légitime de vouloir récupérer la partie qui est occupée par la Russie. C'est quand même, j'allais dire, d'une certaine façon, le béaba d'une défense nationale.
C'est totalement légitime. De là à imaginer que les Occidentaux vont poursuivre leurs efforts économiques, leurs efforts politiques, en risquant éventuellement un affrontement direct, hein, c'est la peur panique depuis le premier jour, en fait, un affrontement avec la Russie, je ne crois pas. Je pense que le soutien occidental à l'Ukraine a atteint son acmé. Ça ne veut pas dire qu'il va s'interrompre, ça veut dire qu'à mon avis, je peux tout à fait me tromper, pour des raisons à la fois donc politiques et économiques, on n'ira pas plus loin.
Jean-Claude Casanova.
Je ne serais pas aussi affirmatif, si vous voulez, sur la politique américaine, parce que la division des crédits, les républicains veulent obtenir des crédits pour le renforcement de la frontière vis-à-vis du Mexique, donc sur le problème de l'immigration. Et donc tout va dépendre du choix que fera Biden. Ça, je ne sais pas en termes électoraux, mais Biden a aussi besoin d'apparaître comme ferme sur les problèmes d'immigration. Il y aura certainement une négociation entre le parti républicain et Biden là-dessus. Quant au fait que les États-Unis deviendraient plus réticents, aujourd'hui, la Russie a récupéré environ 19 à 20% du territoire ukrainien. La Russie a bloqué la contre-offensive ukrainienne. Mais la Russie a perdu la guerre, a gagné, disons, sur le sol, mais a perdu maritimement. Et dans l'efficacité ukrainienne sur le contrôle de la mer Noire, si vous voulez, s'est révélée efficace. Donc il y a une demi-victoire russe et une demi-victoire ukrainienne. Et est-ce que les Américains, à long terme, doivent renoncer? Bien sûr, il y a une négociation, tout le monde y pense, d'ailleurs particulièrement en France, où on dit on se met d'accord territorialement. Mais le problème central n'est pas tellement le problème territorial. Le problème central est la sécurité et l'indépendance de l'Ukraine. Et cela implique à la fois de poursuivre une aide militaire qui fait peur, qui oblige la Russie à faire attention et à n'accepter une négociation que si la Russie accepte en même temps l'intégration de l'OTAN de l'Ukraine dans le système occidental.
Frédéric Ancel.
Oui, c'est juste. Là-dessus, je rejoins bien sûr ce qui a été dit. Je pense qu'en attendant, le cadeau, non pas le cadeau compensatoire, parce que c'est quand même un sacré morceau, mais que les Occidentaux, et en l'occurrence, essentiellement, les Européens, font à l'Ukraine, peut-être, je dis bien peut-être, au détriment de la réappropriation de l'essentiel de son territoire, c'est l'intégration, la promesse officielle, là, cette fois-ci, tout à fait formelle, de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Mais vous voyez, on est dans une dimension différente. On est dans une dimension économique, normative, sociale, industrielle. Tout ça est formidable pour l'Ukraine, mais on n'est pas dans une dimension stratégique et militaire. Je suis vraiment pas certain que les Européens pourront faire davantage que ce qu'ils ont fait et voudront faire davantage que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, surtout avec, peut-être, je dis bien peut-être, et j'espère que ça ne se produira bien sûr pas, l'avènement de nouveaux gouvernements populistes lors des prochaines élections.
Oui, c'est ce qu'attend Poutine. Poutine attend les élections américaines.
Bien sûr,
c'est son principal argument d'ailleurs. Mais en attendant, on attend la livraison des fameux F-16 américains, enfin ces avions qui sont surperformants. Et est-ce que ça peut, à vos yeux, Frédéric Ancel, compenser en partie le déficit d'armement ? Parce que ce que disent les Ukrainiens, ça n'est pas de demander des aides supplémentaires, c'est simplement d'avoir suffisamment de munitions et de ne pas avoir un système de défense aérienne que les Russes cherchent à saturer. Et donc, dès lors que la défense aérienne ukrainienne serait à court de munitions, on ne pourrait plus faire face aux raids incessants de missiles et de drones qui sont déversés sur Kiev et sur d'autres villes. On voit bien que le conflit changerait vraiment de nature. Donc, comment faire face, Frédéric Ancel ?
Écoutez, sur le plan strictement militaire, sans doute vous décevoir, ce n'est pas avec un escadron de F-16, même si effectivement ce sont des avions parfaitement remarquables, pas nécessairement plus remarquables d'ailleurs que les derniers Sukhoi russes, hein, faut bien avoir conscience. Hein.
Oui, mais qui permettent de renforcer la défense aérienne, ces avions,
oui,
c'est ça qui leur intéresse.
Vous avez raison. Alors la défense aérienne, vous avez raison, mais regardez, vous parlez de défense, on parle pas d'offensive là. Or, ce n'est pas avec un escadron de F-16 que vous allez récupérer la Crimée et l'Est du Donbass, c'est ça que je veux dire. Et voyez, et ça ne suffira pas à casser cette triple ligne extrêmement puissante, je ne parle même pas du Dniepr, hein, la ligne naturelle évidemment constituée par ce très large fleuve, archi-bétonnée et tenue par 300 000 soldats russes. Alors bon, ils valent ce qu'ils valent, hein, à l'offensive, on a vu qu'ils étaient assez peu motivés, mais en défensive, manifestement, ils tiennent bien. Donc je dirais que ce serait important, la livraison de CF-16, d'un point de vue plus politique que militaire. Ça voudra dire quelque chose, à savoir que on tiendra la promesse d'intégration à terme de l'Ukraine au sein de l'OTAN.
Normalement, ces avions sont en train d'arriver ou vont arriver, venant des Pays-Bas notamment, Frédéric.
Absolument, c'est pour ça que je vous dis que là, il y a effectivement je parlais d'un acmé de l'engagement, je peux bien sûr me tromper, je ne pense pas qu'on ira plus loin au-delà de la livraison d'un certain nombre de chasseurs-bombardiers F-16, parce que là, on atteint vraiment la limite, me semble-t-il, hein, de ce qu'on peut faire, mais encore une fois, je serais très prudent, comme j'ai toujours été depuis un an, avec cette fameuse contre-offensive annoncée tous les jours depuis un an, hein, ukrainienne, au regard, et je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais simplement au regard de la manière dont les Russes étaient, encore une fois, surbétonnés, et au regard surtout de l'absence du côté ukrainien sur le plan militaire de ces fameux moteurs combattants dont parlait le grand De Gaulle dès les années 30 déjà, c'est-à-dire soit plusieurs divisions blindées modernes, soit plusieurs escadrilles de chasseurs-bombardiers modernes, en l'absence de l'un comme de l'autre, je ne voyais vraiment pas et je ne vois toujours pas comment l'Ukraine, disposant par ailleurs de moins de munitions et de moins de soldats, pourrait faire basculer le rapport de force et récupérer l'intégralité de son territoire.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, de toute façon, les Américains, Biden ne peut pas se permettre d'arriver à l'élection avec une défaite en Ukraine. Donc les Américains feront ce qu'ils peuvent et je pense que la situation se stabilisera. Mais sur le long terme, je ne sais pas du tout ce que Poutine acceptera. C'est-à-dire, est-ce qu'il poussera à une guerre interminable, si vous voulez, pour obtenir davantage en termes de non-indépendance de l'Ukraine ? C'est la grande interrogation, parce que je ne sais pas ce qui peut faire céder Poutine.
On ne sait pas où peut aller Poutine une fois qu'il aurait engrangé les 20% du territoire ukrainien et la Crimée. On ne sait pas après quel serait son prochain objectif aussi, parce qu'il ne faut pas considérer qu'il va s'arrêter là. Et il faudrait peut-être se souvenir qu'on s'est déjà, on a déjà été abusé dans une première période et qu'il ne faudrait pas l'être de nouveau. Et ça signifierait en termes de morale générale, en quelque sorte, que du moment que vous avez l'arme nucléaire, si vous avez l'arme nucléaire, vous pouvez faire absolument n'importe quoi, attaquer n'importe qui, vous en paierez un prix très, très peu élevé finalement. Donc, mais ce sera d'autres sujets pour tout au long de l'année, Frédéric Ancel.
Oui, non, mais c'est juste, je pense qu'il faut se méfier absolument d'une fin, enfin d'un cessez-le-feu qui verrait Poutine annoncer à sa population et à ses rares alliés qu'il l'a finalement emporté et qu'il laisse le soin à son successeur, alors peut-être non désigné, mais peu importe, de poursuivre le travail. Comprenez ? Parce que là, le nationalisme russe, le nationalisme viriliste, impérialiste et de plus en plus messianiste, d'ailleurs russe, au pouvoir à Moscou, nous prépare à cela, hein, à un combat non seulement contre les démocraties au sens politique et philosophique du terme, mais à un combat pour la réappropriation, même pas de l'URSS, mais de l'Empire
qui fut l'Empire des tsaristes,
absolument, et Poutine en parle de plus en plus.
Bien sûr, merci. Donc on va s'arrêter là. Frédéric Ancel, on aurait pu continuer longtemps avec vous. Je rappelle que Frédéric Ancel est l'auteur de « Des voix de la puissance » publié chez Odile Jacob. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.